suis Sylvain Boulouk, je suis enseignant et puis il y a quelques décennies maintenant, j'étais lycéen et j'ai commencé ma carrière politique, entre guillemets, et ma carrière culturelle par l'écoute des Bérus. C'est pour ça que j'ai intitulé un peu ma communication « Ma rage n'est pas perdue », être lycéen au temps des Bérus. Alors en fait, j'ai triché un peu puisque je me suis rendu compte en préparant la communication que la première année au moins, j'étais collégien, et puis la dernière année, j'étais étudiant, comme quoi le temps passait vite. En fait, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est surtout pas de vous faire une égo-histoire, mais de transposer mon égo-histoire dans le collectif, même si, pour dire d'où je parle, je commencerai quand même par évoquer comment je les ai rencontrés, enfin comment j'ai rencontré Béru. Donc la première fois où j'ai dû entendre les sons béruriers, c'était sur Radio Libertaire, je pense que c'était l'émission Trafic, je suis plus tout à fait sûr, les souvenirs s'estompant, et puis j'ai été séduit, puisque je me suis précipité le lendemain à la librairie Publico où ils déposaient leur CD, c'était pas des CD, c'était encore des vinyles, je crois, dans des vieux bacs à disques. À cette époque-là, c'était encore dans des bois en bois, si je me souviens bien, et c'était donc pas le premier album mais le deuxième album, et dès le surlendemain j'ai dû aller acheter, retourner là-bas pour acheter Nada 84. Après, j'ai pas eu une expérience de punk, c'est-à-dire que je n'ai pas adopté tous les us et coutumes de la scène punk, même si j'ai essayé de singer quelques codes vestimentaires. Ça, c'est une première chose. Après, c'était une rupture musicale, mais pas une rupture musicale complète, puisque j'avais été plutôt bercé par Brassens et de la chanson française, et que je pouvais repasser pas indistinctement de l'un à l'autre sans que ça me pose réellement de problèmes. Donc j'étais plutôt marqué par un éclectisme musical. Donc je pense que c'est davantage le rythme à jouer, mais les paroles ont été aussi un influenceur important dans une révolte culturalo-politique de mes premières années d'engagement, on va dire. Qu'est-ce que c'était ? C'était une empathie pour un phénomène, c'était aussi un imaginaire musical et en même temps un imaginaire politique qui circulait, alors peut-être générationnel, plus au sens, c'est pas exactement la même expérience que ceux qui avaient 3 ou 4 ans de plus que moi. Ce que j'essaierais de voir, c'était comment la boîte à rythme et le mégaphone sont devenus le symbole de mes premières années, de mes premières expériences. Donc ce que j'essaierais de vous montrer, c'est qu'il s'agit plus en fait d'une réflexion sur une réception, une perception de cet univers musical. C'est plus un vécu et un sentiment plus ou moins partagé avec un groupe phare, mais après des groupes au contour mouvant. C'était la marque d'une révolte contre la société dans laquelle on vivait, mais dans laquelle on vit toujours, donc avec un certain nombre on s'est accoutumé à un certain nombre de choses. Alors j'ai essayé d'interroger les formes de ma rage pour voir si elle était perdue ou pas tout à fait perdue. Et en réfléchissant, j'ai vu 3 ou 4 éléments qui me semblaient importants de dégager. À travers mon exemple, peut-être que d'autres auront d'autres parcours, d'autres visions des choses. Cette rage qui perdure, ça passait d'abord par le divertissement, le goût de la fête, mais c'était aussi écouter, pour un certain nombre d'entre nous en tous les cas, écouter les Bérus dans les cours des lycées dans les années milieu des années 80 n'était pas forcément un phénomène majoritaire. On n'était pas très nombreux, en fait. C'est une question que je me suis posée en réfléchissant sur cette expérience, voir que on formait une communauté, mais c'était peut-être plus une communauté imaginaire qu'une communauté et une communauté hors du lycée que dans le lycée en tant que tel, ou alors on était très peu nombreux. Et enfin, c'était troisième aspect, c'était aussi la culture berrurière a participé, à mon avis, pour moi en tout cas, d'un processus de formation politique dont les textes et les chansons ont été un des éléments, pas le seul, mais un des éléments qui sont importants. Premier élément que je voudrais développer, c'est ce qui est le plus Le moins évident en même temps à évoquer, c'est comment on se divertit, comment on fait la fête et comment on vit en fait dans un monde parallèle. Alors, enfin, parallèle ou dans un monde qu'on s'invente quand on est lycéen. Donc, écouter les Bérus, c'est à ce moment-là rentrer dans une rupture musicale avec l'univers traditionnel qu'on peut avoir soit médiatiquement, soit dans le milieu familial, rompre avec un certain nombre de codes pour se construire en fait son propre imaginaire et ses propres références musicales. Ça sous-entend accepter, changer de type de musique et changer de type d'écoute, et puis après dans un deuxième temps essayer de faire partager ces nouveaux rythmes à ses camarades de lycée, mais ça n'a pas été forcément quelque chose d'évident pour convaincre les autres. C'était aussi faire la fête. Les Bérus, c'était faire la fête, c'était à la fois faire la fête entre soi dans ces communautés qu'on retrouvait, non plus dans les lycées ou au lycée en tant que tel, mais avec des lycéens d'autres lycées. Et puis c'était aussi faire la fête parce que on se rendait au concert où on imposait dans un certain nombre de soirées des séances de pogo mémorables. Donc la fête entre soi et puis la fête donc aller au concert. Alors c'était impossible, j'ai recherché encore toute la soirée d'hier le premier concert auquel je suis allé, impossible de me souvenir, c'était courant de l'année 85, mais je ne retrouve pas la date. En tous les cas, comme beaucoup d'entre vous ici, je pense, il y a deux concerts qui ont finalement été peut-être les plus... il y en a peut-être trois, il y avait un concert antimilitariste en banlieue, je ne me souviens plus où ils avaient chanté, et puis deux autres qui ont marqué la scène, c'est celui du Zénith en 88 et puis les trois derniers jours de l'Olympia où il y avait à la fois la participation indirecte à ce concert et puis le spectacle qui était représenté sur scène. Donc il y avait cette forme de spectacularité en fait qui donnait à la scène derrière autre chose qu'un simple concert, puisqu'il y avait un côté clownesque, festif sur lequel d'autres s'étendront plus que moi. Apprécier les Bérus, à mon avis, c'était aussi essayer d'imiter, de singer ou de se former avec son propre univers et en même temps en les copiant un peu. Alors je suis pas allé jusqu'à adopter une crête ou ce genre de choses, mais c'était effectivement, pour prendre quelques exemples, s'acheter une paire de docks ou mettre des paraboots, choisir un blouson qui représentait à peu près le même modèle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça devait être à peu près la période des sacs, ce qu'on appelait les sacs US, si ma mémoire est bonne, et sur lequel on rayait US, on faisait un drapeau noir, et puis on mettait juste au-dessus BXN comme symbole. Puis après, pour certains, alors même si personnellement j'avais un peu commencé avant, c'était aussi être fasciné par l'Asie, et ça pouvait être aussi fasciné par la pratique des arts martiaux, puisqu'ils sont évoqués à plusieurs reprises dans l'univers berrurier. Et enfin, dernier point, puisque c'est aussi une forme de sociabilisation politique, c'était commencer à manifester au son des berruriers noirs. Là aussi avec un symbole un temps de manifestation qui a été qui est le plus symbolique, qui est peut-être les manifestations contre le projet de loi qui était le projet de loi de Vaquet, donc à la fin de l'année 1986, et puis tout début de l'année 87, puisqu'il y avait eu un certain nombre d'autres mouvements sociaux où les chansons étaient reprises dans les cortèges manifestants. Ça, c'était un peu le début c'est un peu le processus de sociabilisation et de l'image qu'on pouvait rejoindre d'une certaine manière la raïa berrurière et se sentir appartenir à une communauté, communauté qui était plus ou moins imaginée, ou alors communauté qui allait se greffer sur l'appartenance à des groupes militants sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Le deuxième aspect, c'est, alors, est-ce que écouter les berrues, ouais, on appartenait à une communauté, ça c'est évident, mais en fait, en même temps, on était dans l'univers plus général, on était un peu seul, puisque si alors l'empereur Tomato Ketchup commence à passer sur les radios à la fin en 86, il n'en reste pas moins que dans les cours des lycées, pour les souvenirs que je peux en avoir, voire même la première année d'université. On est resté minoritaire dans la mesure où, d'après mes souvenirs et d'après ce que je peux voir, le nombre de lycéens qui écoutaient les berrues était relativement restreint. On devait être sur des communautés scolaires d'environ 1000 élèves, on devait être une petite dizaine à écouter assidûment, ce qui fait, pour reprendre un autre chanteur marqué par cette culture, ça fait à peu près 1 sur 100. Donc on était en fait assez minoritaire. Après, il y a eu un deuxième phénomène à partir du moment où les berrues sont rentrées un peu plus dans l'espace public, c'est-à-dire que nous avions un phénomène d'empathie mais pas d'adhésion qui se retrouvait dans le fait que il manque une bande, parce que ces trois bandes c'était un... La référence aux trois bandes rouges est un clin d'œil en fait au vieux drapeau indo-chinois avant. C'était un autre clin d'œil que je développerai tout à l'heure. Donc, on est resté dans un phénomène minoritaire, même s'il y a eu un phénomène à partir de, enfin, même s'il y a eu agrégation, en tous les cas, empathie d'une partie plus large du public lycéen à partir du moment où les berrues ont été un peu médiatisées, et donc on a l'impression de sortir de notre marginalité politique. Donc ça c'est autour de 86-87, et en même temps, dès qu'on sortait de l'espace lycée enfermé dans des lycées, souvent des lycées casernes, on pouvait se retrouver et faire communauté, et là retrouver justement cette expérience qui faisait qu'on avait l'impression d'être beaucoup plus nombreux, mais c'était, à mon avis, en retournant sur cette expérience, trompe-l'œil, puisque si on fait la somme des différentes personnes qui participaient, on n'était finalement que quelques centaines, voire quelques milliers de lycéens de lycéens politisés pour Paris, dans l'ensemble de l'agglomération parisienne. En même temps, ça voulait dire, ce sera le troisième aspect que je voulais évoquer, c'était aussi s'approprier les paroles et essayer de faire corps pour se donner un caractère plus politique. C'est la rencontre en fait avec les textes du groupe et les paroles du groupe. Alors, c'était pas uniquement, ça a participé de la socialisation politique, mais c'était pas uniquement eux qui étaient à l'origine de cette socialisation politique. Alors, pour ma part, dans les groupes libertaires, certains connaissent peut-être, c'était à ce moment-là la coordination des lycéens et des étudiants anarchistes, donc où les textes des berrues étaient amplement débattus entre quelques lycéens, on devait être quand même qu'une quinzaine sur l'ensemble des lycéens parisiens. Donc ça participait de du corpus. Après, ça participait aussi de la volonté de singer cet univers, puisque en lisant régulièrement par exemple le journal qui avait été fait, le mouvement de la jeunesse, on essayait de faire nos propres fanzines et de singer aussi cette expérience. Donc il y avait une volonté de copier et de recopier, peut-être en se formant cet univers politique et cet environnement culturel. Puis enfin, troisième point, c'était aussi partager un certain nombre de valeurs et de refus. Alors le plus connu, celui qui reste peut-être le plus célèbre, c'est l'antifascisme. On était dans les années 80 encore un Front National à 10-12%, mais il y avait donc toute la mouvance autour de auquel certains participaient plus ou moins activement, plus ou moins violemment, toute cette mouvance autour à la fois des scalps, donc les sections carrément anti-Le Pen, et d'autre part des bulletins d'information qui se développaient comme réflexe. C'est le premier aspect. C'était le deuxième aspect, l'antimilitarisme, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais les concerts de soutien. À cette époque-là, le service militaire était encore obligatoire et il y avait quelques amis qui s'insoumettaient ou au moins qui étaient objecteurs de conscience. Et bon, donc ça a aussi participé de la formation et de l'initiation politique. La troisième chose, c'est peut-être l'internationalisme. L'internationalisme avec plusieurs choses. Si je retenais qu'une chanson, ce serait peut-être celle en hommage aux Chinois de Tiananmen. Ce qui m'amène au quatrième point, qui n'est pas souvent évoqué, qui est un peu tabou dans le milieu et dans la culture autour des Béreries Noires, c'est une forme d'anticommunisme qui pouvait être relativement qui n'était pas forcément partagée par tout le monde, mais qui pouvait être inscrit, d'où la référence aux trois bandes rouges aujourd'hui, qui pouvait être présente chez un certain nombre d'entre nous. Donc voilà cette espèce d'univers culturel qui a participé, alors pour ma part, mais je pense pas que ce soit que pour ma part, d'une formation et d'un processus d'initiation politique. Alors est-ce que ma rage est perdue? J'ai l'impression que mon renard est un peu camusien aujourd'hui, puisque je crois qu'il est toujours un peu solitaire et il est toujours aussi très solidaire. Il est aussi camusien parce qu'on a l'impression d'être Sisyphe à porter son rocher qui redescend tout à fait régulièrement. Et en fait, finalement, c'est un univers culturel. Je pense que ceux qui sont parmi nous aujourd'hui sont le partage. C'est un univers culturel qui est resté et qui, finalement, quelle que soit la période, fait qu'on a un certain nombre de valeurs ou d'idées qui nous restent particulièrement ancrées, que ce soit l'antifascisme ou l'antitotalitarisme, que ce soit cet internationalisme, et peut-être qu'aujourd'hui, malheureusement, compte tenu de l'actualité, les derniers mots, ce serait peut-être une reprise de ce qui avait été une dernière chanson, qui n'est pas d'eux, mais qui a été écrite par Étienne Rodagil, qui était la Makhnovchina, eu égard à ce qui peut se passer en Ukraine ces temps-ci. Voilà, j'ai terminé.
C'est le punk avec les Béreries Noires. Mais est-ce que à votre époque, comment était perçue la première scène punk, la scène punk des années 70, 77, comme on l'appelait? Est-ce que vous l'écoutiez ou c'était déjà trop has-been pour vous, en fait?
Vu le dessin qui a été fait tout à l'heure en me disant que j'écoutais téléphone, je suis un peu vexé. Non, c'était pas has-been puisque. Non, puisque je crois que j'ai écouté. Ce que j'ai écouté en premier, c'est les Béreries. Après, je parle pour moi, chaque expérience musicale étant un peu différente. Mais après, en tombant dans le bain du rock alternatif, après, c'est peut-être un défaut en étant historien, mais j'ai cherché les origines. Donc, je suis vite remonté au Clash première version et aux Sex Pistols. Donc, il n'y a pas eu de considération. C'est has-been ou c'est pour ma part en tout cas, c'est-à-dire que c'était pas de l'éclectisme. Enfin, si, il y avait un éclectisme musical chez moi, mais qui n'était pas marqué par un sectarisme musical aucunement, puisque j'ai vraiment pioché. Mais l'autre chose, c'est que je pense. Enfin, pour ma part, que c'est les paroles autant que l'arrière-fond musical qui ont joué dans ce que j'ai écouté, voire même ce que j'écoute toujours, puisqu'il y avait une référence implicite dans ce que je disais à un des derniers chanteurs à texte un peu connu, qui est Damien Seize, puisqu'il a fait elle remonte à quelques années maintenant, mais qui est justement dans les cours des lycées, évoquant aussi cette période. Alors après, c'est peut-être aussi une part de nostalgie de ma part, hein, mais cette période qui était finalement... pas désagréable, puisque c'était aussi le temps des manifestations importantes, puisqu'on était quand même plusieurs dizaines de milliers à manifester, mais pas tous au son des Bérus non plus.
Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une toute petite question à propos de la coordination des lycéens. Je ne sais pas si j'ai suffisamment bien écouté ou pas, mais vous avez dit que vous parlez d'étudiants à Paris, mais est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur son ampleur et aussi sur... Est-ce que vous vous sentiez comme un... sorte de fan des Bérus à Paris, ou est-ce qu'il y avait un mouvement plus global avec lequel vous étiez en contact ?
Le groupe auquel j'appartenais, qui était en fait vaguement une branche des jeunesses, fausse branche des jeunesses, puisqu'on était tous membres des deux organisations, c'était ce qu'on appelait la coordination des lycéens et des étudiants anarchistes, en fait, qui étaient les jeunes de la fédération anarchiste, pour faire vite. Après, dans ces cercles militants, qui portait Radio Libertaire en même temps, il y avait une empathie assez grande pour le phénomène berrurier, plutôt chez les plus jeunes que chez les très anciens, c'est-à-dire que j'aimais bien Maurice Joyeux par ailleurs, mais quand on lui parlait des berruriers noirs, c'était pas possible. C'était aussi un phénomène générationnel qui pouvait cliver un peu ce mouvement. Après, la deuxième chose, c'est plus... ce que j'essaie de dire, enfin, en tous les cas, pour ma part, c'est plus les paroles qui donnaient sens, ou les paroles et les musiques qui pouvaient donner sens à un engagement, que juste un phénomène d'adhésion mimétique à un groupe de musique. C'est-à-dire qu'après, il y avait les autres groupes qui composaient la scène du rock alternatif, qui pouvaient aussi, en fonction des textes, en tous les cas, m'interpeller, moi, je ne sais pas si je réponds entièrement à votre question, mais les textes qui pouvaient m'interpeller, qui interpellaient les copains de la même manière, ou qui suscitaient des débats. C'était plus un positionnement par rapport aux textes et aux débats qui pouvaient générer ces textes que forcément uniquement une adhésion musicale ou à un univers uniquement, au punk en tant que phénomène sociétal, on va dire. J'ai répondu ou pas tout à fait ? Des rapports... Oui, alors les rapports. Oui, on avait des rapports avec d'autres personnes. D'accord. Oui, mais alors c'était un temps qu'on a pratiquement oublié, où les moyens de communication étaient moins évidents que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était le téléphone. On faisait gaffe au téléphone parce qu'on se disait, on était tous un peu parano, mais les RG vont nous écouter, donc on va pas donner des informations au téléphone. Donc les rapports entre Paris et le reste de la France étaient moins faciles, étaient plus compliqués en fait, que donc il fallait qu'il y ait des réunions nationales pour qu'on puisse débattre de tel ou tel tel aspect. Donc finalement le phénomène était plus local. Après c'était aussi localement on vivait en... Alors peut-être pas en raya, mais en groupe. Enfin, on était tout le temps ensemble à se retrouver. Donc il y a ce phénomène aussi où on était, en fait, le sentiment d'être minoritaire dans la société, dans la cour du lycée, était compensé par le phénomène du groupe dès qu'on sortait de l'espace lycéen.
Merci beaucoup. On va prendre une troisième et dernière question. Pour pouvoir passer la parole à la seconde intervenante. Je rappelle qu'évidemment, on prend les questions qui vous brûlent les lèvres après chaque intervention, mais vous pouvez discuter avec chacun d'entre nous aux pauses, avant, après les sessions. On sera ravis de continuer le débat. On est là pour ça aussi.
Alors c'était pas une question, c'était plus une remise en perspective et historique à l'époque, puisque je suis à peu près de la même génération. Mon premier concert c'était en 87, en mars 87 à Conflans-Sainte-Honorine, dans la salle des fêtes. À l'époque, effectivement, on avait le scalp réflexe où on échangeait beaucoup, puisque moi j'en faisais partie, mais on avait aussi les fanzines qui étaient notre réseau social d'aujourd'hui. Et en fait, sur le plan local comme sur le plan national, l'information elle passait comment ? Elle passait par les fanzines et elle passait par les petits dépliants qu'on faisait, qu'on distribuait chez les disquaires, qu'on mettait dans les cassettes, qu'on piratait, désolé, mais on les avait piratées toutes les cassettes. Et puis on distribuait ça, et l'information elle passait de groupe en groupe tout autour, dans toute la France, voire même à l'international, puisqu'on avait quand même des relations entre autres avec les Anglais. Et c'était ce partage qui était très collectif et qui était parfaitement éclectique, et sur le plan politique, puisque dedans on avait aussi bien des anarchistes, des libertaires que des communistes ou des apolitiques dedans. Tout ce mélange faisait qu'il y avait la raya, c'était ça, c'était le partage le plus global et le plus éclectique.
Là où je suis d'accord, hein, mais on partageait aussi en fait, c'est ça où on était minoritaire, c'est qu'on partageait qu'entre groupes, on restait entre nous en fait, il n'y avait pas une volonté non plus on cultivait notre marginalité quoi, autrement dit.
Ok, merci beaucoup.